Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, bonjour à tous. Je vous propose de reprendre ce cours consacré cette année à l'accès à la conscience. Et dans le cours d'aujourd'hui, en tentant de rattraper un tout petit peu le retard que j'ai pris par rapport aux titres qui sont donnés au départ, je vais vous parler des situations d'inattention, de ce qu'on appelle le goulot d'étranglement central et du rôle du cortex frontal dans l'accès à la conscience. Et dans le dernier cours, on reviendra à nouveau sur ce concept du rôle du cortex frontal et des applications à la pathologie cérébrale. Alors, dans les cours précédents, nous avions vu qu'il était possible de commencer à établir une taxonomie encore très rudimentaire des états conscients et non conscients. Dans un des cours du début, je vous avais montré qu'il était possible de faire des contrastes encore très élémentaires en imagerie cérébrale entre des états où le sujet a accès à une information et des états où il n'y a pas accès. On avait vu qu'un des tout premiers contrastes en 2001 consistait à présenter des mots masqués ou des mots démasqués, et on pouvait observer dans ce cas à la fois un très vaste réseau pariétofrontal comprenant plusieurs régions différentes et distantes corrélées entre elles, et puis l'amplification d'une région locale, en l'occurrence la région de la forme visuelle des mots dans le cortex occipito-temporal gauche. Donc à la fois amplification et accès à un réseau supplémentaire. Et dans un deuxième temps, nous avions vu que si le sujet n'orientait pas son attention vers les stimuli, des stimuli qui sont donc potentiellement visibles mais qui ne sont pas accédés, et il faut faire cette distinction entre visible et vu, des stimuli qui sont visibles mais qui ne sont pas accédés peuvent donner lieu à cette amplification de l'activation dans les régions visuelles postérieures. Si on contraste donc un stimulus masqué versus un stimulus démasqué et que dans les deux cas le sujet n'y fait pas attention, et il fallait donc distinguer donc les effets d'activation eux-mêmes qui restent confinés dans ce cas-là aux régions occipito-temporales, des effets d'amorçage qui peuvent se diffuser à l'ensemble du réseau et qui suggèrent qu'on a là un stimulus qui est en quelque sorte très conscient, c'est le terme qu'on a utilisé, c'est-à-dire visible, potentiellement susceptible d'être accédé consciemment, mais qui à un instant donné ne l'est pas. Et dans la taxonomie qui vous est proposée, il y a donc trois états, des stimuli qui sont accédés et qui gagnent accès à un réseau distribué dans lequel l'information peut être diffusée, des stimuli qui pourraient être accédés mais qui à un instant donné ne le sont pas, peut-être par exemple parce qu'ils sont bloqués par un autre stimulus qui est en train d'être traité consciemment, et enfin des stimuli subliminaux, et on réservera ce terme à des stimuli qui n'ont pas la force suffisante parce qu'ils sont interrompus par exemple par un masque pour donner lieu à cette ignition globale de l'espace de travail. Alors cette taxonomie conduit immédiatement à une troisième catégorie de contrastes expérimentaux. Vous avez vu qu'ici on contraste, d'après la théorie, on contraste conscient versus subliminal. Dans cette condition-ci, qui a causé beaucoup de confusion dans la littérature, on contraste préconscient versus subliminal, et donc probablement on n'est pas en train d'étudier en réalité l'accès conscient, mais simplement la visibilité sans conscience. Et il doit donc exister un troisième état qui est peut-être le meilleur contraste d'après cet embryon de théorie pour étudier la conscience, c'est-à-dire la distinction entre des stimuli qui sont potentiellement de très haut niveau, qui sont visibles, mais dont l'un est accédé tandis que l'autre ne l'est pas. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il faut donc trouver des conditions qui permettent de faire ce type de contraste minimaux. On va voir que le clignement attentionnel, attentional blink en anglais, est l'une des conditions essentielles pour ce type d'étude. Je vais simplement revenir en une diapositive sur ce qu'on appelle attention et la distinction entre sélection et accès dans le domaine de l'attention, parce que je crois que c'est un petit peu confus. Il est clair que ce qui fait la différence à ce niveau-ci, c'est une forme d'attention. Le sujet va prêter attention au stimulus T1 et il ne va pas être capable simultanément de prêter attention au stimulus T2. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par attention? Ça reste une source de grande confusion et je pense qu'on peut clarifier un petit peu la situation en s'appuyant sur cet article extrêmement récent que je vous recommande, de Wang et collaborateurs, dans JP General, qui nous incite donc à distinguer un système de sélection et un système d'accès. Évidemment, dans ce cours, je vous parle du système d'accès à la conscience. Donc, le système de sélection, nous en avons parlé l'an dernier dans le cours sur le traitement subliminal, est un processus non conscient. C'est lui qui va choisir, parmi les objets qui sont présents dans la scène visuelle, quelques-uns des objets qui va leur attribuer une pertinence pour les buts actuels de l'organisme et qui va donc créer une sorte de paysage de pertinence distribués sur l'ensemble des objets de la scène. C'est un processus non conscient, on l'a vu l'an dernier, parce que on peut montrer que l'attention peut être déployée même si on ne voit pas les stimuli, que l'attention a un effet sur des stimuli qui restent subliminaux, le travail de Blandin et Nakache en particulier, et que des potentiels évoqués qui sont associés au déploiement de l'attention spatiale, comme la N2PC, peuvent tout à fait être déployés de façon non consciente et en réponse à des stimuli non conscients. Donc la sélection est un processus parallèle qui travaille à travers l'ensemble de la scène visuelle et largement non conscient. L'accès, par contre, correspond à un processus d'entrée dans la conscience dans lequel une fraction du contenu auquel on prête attention gagne accès. Et là, il y a des limitations extrêmement fortes et un seul objet, essentiellement, va pouvoir rentrer dans le contenu de la conscience. Je vous avais signalé que Wang a une théorie tout à fait particulière de ce qui peut être un contenu de la conscience, cette notion de carte booléenne. Je ne reviens pas là-dessus. C'est une hypothèse plausible, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des restrictions extrêmement fortes sur l'accès. Donc, il ne suffit pas d'avoir sélectionné des objets, il faut encore que l'un d'entre eux gagne accès. Et ça permet, je pense, cette distinction de clarifier un tout petit peu les relations entre l'attention et la conscience. D'une certaine manière, l'attention, on peut dire qu'elle est la plupart du temps nécessaire à l'accès conscient, dans la mesure où la plupart du temps, on a affaire à des stimuli qui sont très variés et il est nécessaire de sélectionner l'un d'entre eux pour l'accès à la conscience, mais il faut bien voir que s'il y a un seul objet dans la scène visuelle, ou si celui-ci a une science à lui tout seul, ou peut-être ça peut être un objet auditif également, pensez à la sirène des pompiers soudainement, eh bien il n'est pas nécessaire d'avoir une sélection attentionnelle pour que cet objet gagne accès à la conscience. Et l'attention n'est pas suffisante non plus, parce qu'il peut y avoir plusieurs objets qui nécessitent un accès, et on va voir qu'à ce moment-là, même s'il y a attention, un seul d'entre eux gagne accès à la conscience. Donc j'aime bien cette figure qui est proposée par Wang au début de son article, qui montre un petit peu la différence entre les deux concepts. Et si vous avez quatre objets dans chacune de ces scènes, et la tâche qui vous est proposée, c'est de déterminer la forme des objets rouges. Alors, sur l'axe vertical, vous avez la dimension de sélection qui est variée. Il est bien entendu plus facile de sélectionner des cibles pour cette tâche de déterminer la forme des objets rouges lorsque les objets rouges sont très différents des autres objets, par exemple parce que la couleur est extrêmement différente. Donc ici, la sélection est facile. Ici, elle est rendue difficile par la similarité de la couleur. Ça, c'est la sélection est une opération non consciente qui va prendre en compte donc, la similarité des objets. Par contre, l'accès à l'information est plus difficile lorsqu'il y a deux objets à examiner que lorsqu'il y a un seul objet à examiner. Une fois que la sélection a été opérée, l'accès, d'après l'hypothèse de Wang, va devoir se faire de façon sérielle. Et les données de John Duncan, déjà très anciennes, 1980, montrent effectivement qu'il est plus difficile d'accéder à deux objets que d'accéder à un seul. Alors, la tâche de clignement attentionnel que nous allons voir maintenant révèle de façon extrêmement fine ses limites dans l'accès à l'information, même dans des conditions où la visibilité des stimuli est en fait tout à fait bonne. Là, qu'est-ce que c'est que le clignement attentionnel ? C'est ce qui se produit lorsqu'on demande à un sujet d'accéder très rapidement, à des intervalles de temps assez brefs, à deux informations successives. La tâche, au départ, telle qu'elle a été introduite, notamment par Kim Shapiro et Jen Raymond, est extrêmement simple. Vous avez, par exemple, une chaîne de chiffres qui s'affichent successivement sur l'écran, tous au même point, et à l'intérieur de cette série de chiffres, il y a des lettres qui sont vos cibles, et votre tâche consiste tout simplement à regarder cette série, ces chiffres et ces lettres apparaissent l'un après l'autre, et à la fin de l'essai, vous allez devoir rapporter quelles lettres ont été présentées, si des lettres ont été présentées. Donc ici, il s'agit de rapporter M et C. Et la découverte du clignement attentionnel, c'est que la cible T2 ici, la deuxième lettre, est présentée trop près de la cible T1, et dans un intervalle intermédiaire, eh bien, il y a une chute brutale des performances. Les sujets ne sont pas capables de rapporter la deuxième lettre. Donc ici, vous avez le pourcentage de rapport de la deuxième lettre T2, étant donné que T1 était correct, ce qui veut dire que le sujet a bien fait la tâche sur T1. Vous voyez que ses performances s'écroulent. Alors, il y a une préservation, ce qu'on appelle le lag one sparing, une préservation au délai numéro 1, c'est-à-dire que quand les deux lettres sont contiguës, on arrive à les accéder simultanément. Mais ensuite, vous voyez qu'il y a une chute brutale des performances qui suggère qu'on ne peut pas accéder simultanément ou quasi simultanément à des intervalles de temps brefs à deux informations. Ce clignement attentionnel est un phénomène tout à fait spectaculaire et qui peut être quantifié de façon extrêmement fine. Un article récent de Ed Wuhl avec Nancy Kanwisher et Neil Weinstein montre qu'on peut vraiment tirer des inférences assez fines sur ce qui se passe d'un point de vue strictement psychologique dans ce clignement attentionnel. Ils ont simplement changé légèrement la tâche qui consiste ici à être exposé à une série de lettres dont l'intérêt est qu'elles sont toutes différentes, il n'y a jamais deux fois la même lettre, et les cibles sont entourées d'un anneau. Voyez. Donc la personne, à la fin de l'essai, doit rapporter l'identité des lettres qui étaient présentées dans l'un de ces anneaux. Et il peut y avoir deux lettres ici qui sont ainsi indiquées par les anneaux. Alors l'intérêt de cette tâche, c'est que lorsque le sujet se trompe, on peut savoir exactement d'où vient sa réponse. Par exemple, s'il se trompe sur la lettre A, peut-être il va rapporter la lettre Z. Voyez ? Donc on peut avoir une idée très précise de l'origine des erreurs de sélection de l'information qui sont faites par le sujet. Et ces courbes extrêmement régulières nous indiquent que la sélection pour l'accès d'une information à la conscience est à la fois détériorée, différée et bruitée au cours du clignement attentionnel. Donc, pour vous expliquer ces courbes, en haut, vous avez ce que les sujets font avec la cible T1, et on voit bien que la majorité des rapports du sujet sont corrects, c'est-à-dire centrés sur la position normale de la lettre, et de temps en temps, le sujet rapporte la lettre précédente ou la lettre suivante. Vous voyez, mais c'est une courbe extrêmement précise. Bon, et les expérimentateurs, évidemment, se sont placés dans une situation telle qu'on fait quand même un petit peu d'erreur, vous voyez, de sélection de la bonne lettre pour T1. Vous voyez, la situation est très différente pour T2. Ici, chacune de ces courbes indique ce qui se passe à un délai particulier entre la lettre 1 et la lettre 2. Donc, par exemple, la courbe rouge indique un délai de une lettre. Alors, les points qui sont entourés en noir vous indiquent la performance correcte. Et là, on retrouve la courbe de clignement attentionnel. Vous voyez, donc, ici, c'est le nombre de fois où le sujet a réussi à rapporter la lettre au délai 1, au délai 2, au délai 3, etc. Mais vous pouvez aussi regarder chacune de ces courbes comme donnant une indication sur l'origine des erreurs du sujet lorsqu'il se trompe. Et évidemment, il se trompe extrêmement souvent dans cette période de clignement attentionnel. Donc, si vous regardez, par exemple, la courbe qui correspond au pic du clignement attentionnel, qui serait le SOA3, ici, un délai de 3 lettres entre T1 et T2, eh bien, vous voyez que les courbes se sont effondrées et le sujet rapporte la moitié du temps des lettres qui viennent d'avant et la moitié du temps des lettres qui viennent d'après. Il y a une sorte de gouffre de perception du sujet précisément au moment où il est occupé à traiter la première lettre, probablement à la consolider en mémoire. Et donc vous voyez que les courbes se déplacent en partie vers la droite, en partie vers la gauche, de manière à créer ce gouffre de perception, ou d'accès plutôt, à l'information pertinente sur la lettre. Donc, ça se traduit par plusieurs mesures qu'utilisent Wuhl et Kanwisher. La performance diminue, ça on le voit très très bien. Les réponses sont repoussées en dehors de cet intervalle et la variance globale augmente. Et donc, vous voyez qu'au lieu d'avoir cette courbe extrêmement précise de perception de la lettre 1, on a des courbes qui sont diluées dans le temps et qui ne redeviennent précises que longtemps, longtemps, longtemps après la présentation de T1. Donc, il y a un intervalle de temps bien précis pendant lequel si on s'engage dans la perception et la consolidation en mémoire d'un objet T1, eh bien, on a une dilution considérable des performances sur un autre objet T2. Alors, le cours d'aujourd'hui consistera largement à vous rapporter plusieurs expériences d'imagerie cérébrale qui ont étudié les mécanismes et les corrélats cérébraux de ce phénomène de clignement attentionnel. Mais la première chose, dans le travail de thèse de Claire Sergent, consistait à déterminer s'il s'agit bien effectivement d'une perte de conscience. Dans les expériences précédentes, il s'agit après tout d'une baisse des performances objectives du sujet. Il simplement n'arrive pas à rapporter la lettre. Mais rien ne nous dit qu'il a perdu conscience de la lettre ou que peut-être il s'agit simplement d'un problème de mémoire, par exemple, de la lettre. Alors, nous avons essayé de mesurer le plus directement possible l'accès à la conscience au cours du clignement attentionnel. Et dans les expériences de comportement de Claire Sergent, la situation était la suivante. Comme on s'intéressait bien sûr à la perception des mots, la cible T2 était un mot en français, présenté au milieu de chaînes de caractères sans signification. Et la cible T1 1 consistait à identifier cette chaîne de caractères qui était soit XOOX, soit OXXO. Vous voyez, donc une tâche visuelle assez difficile. L'innovation consistait surtout à poser à la fin de l'essai, juste deux écrans après la présentation du mot T2, une question immédiate au sujet. Est-ce que vous avez vu ou pas le mot en question, le mot 5 dans cet exemple? Donc, de façon un petit peu inhabituelle, nous posions en premier la question qui portait sur l'item T2. Mais évidemment, au moment où T1 avait été présenté, le sujet avait dû s'engager dans la tâche sur T1. Par ailleurs, la question sur l'item T2 était directement une question de conscience. Est-ce que vous avez vu ou pas l'item? Et pour quantifier finement ce fait, on utilisait une échelle. Vous voyez, un curseur que le sujet pouvait déplacer en lui disant le côté gauche de l'échelle doit être utilisé si vraiment vous n'avez rien vu du tout, vous pensez qu'il n'y avait pas de mots. Vous utilisez le côté droit de l'échelle si vous pensez qu'il y avait tout à fait un mot qui était extrêmement lisible. Et vous pouvez utiliser toutes les étapes intermédiaires. Par exemple, la position du milieu consisterait à dire que vous n'êtes pas certain s'il y avait un mot ou pas, vous avez peut-être vu des fragments, etc. Donc, une quantification de l'introspection. Vous savez que c'est une méthode, j'ai insisté là-dessus, qui devient de plus en plus importante. On ne peut pas étudier la conscience sans avoir une mesure introspective de la part du sujet. Donc ensuite seulement, le sujet rapportait ce qu'il avait pu percevoir de la cible T1. Alors les résultats, alors évidemment, bien entendu, on faisait varier le délai hein, entre la cible T1 et la cible T2, le nombre d'écrans intermédiaires qui étaient présentés. Voici les résultats comportementaux. D'abord, on voit très bien un clignement attentionnel sur la visibilité moyenne. Donc, ce que vous avez ici sur l'axe vertical, c'est la visibilité moyenne des sujets, la position moyenne du curseur, en fonction du délai entre T1 et T2. Et vous voyez bien qu'il y a à nouveau une fenêtre temporelle, à peu près 3 écrans. Alors, les écrans ici étaient de 86 millisecondes, donc ça fait à peu près 250 millisecondes, un pic de décroissance de la visibilité des stimuli. Le plus intéressant, c'est la distribution des réponses du sujet. Donc ici, vous avez les positions du curseur. Les positions les plus élevées correspondent aux réponses « j'ai vu le mot ». Et vous voyez que les sujets les utilisent très souvent. On voit le clignement attentionnel dans la mesure où, en fonction du délai entre T1 et T2, vous voyez qu'il y a une baisse des réponses « j'ai vu parfaitement le stimulus ». Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que presque toutes ces réponses sont transférées dans la catégorie la plus basse. Vous voyez ? C'est-à-dire que le sujet ne dit pas juste « j'ai mal vu le mot », mais il dit de façon très ferme « il n'y avait pas de mot ». Dans un certain nombre d'essais, l'illusion est complète, le sujet ne parvient pas à déterminer qu'il y avait effectivement un mot qui était présent sur l'écran. Nous avons modélisé ces réponses, vous voyez que ça c'est la courbe que je viens de vous montrer, la distribution des réponses du sujet, et on peut, c'est le modèle, mais on peut donc obtenir un excellent modèle des réponses du sujet en mélangeant deux distributions. La distribution qui est les réponses du sujet lorsque le mot T2 est effectivement absent, il n'y a pas de mot du tout. Alors évidemment, le sujet utilise les positions les plus à gauche du curseur, comme on lui a demandé. Et une autre distribution qui correspond aux réponses du sujet lorsque la cible T2 est effectivement présente, mais que le délai est long et donc il la voit pratiquement à tous les coups. Vous voyez, il n'y a pas de réponse pas vue ou presque pas de réponse pas vue. Donc vous voyez que si on mélange ces deux conditions, tout vu ou rien à voir, eh bien, on obtient une bonne caractérisation de la perception du sujet dans la situation de clignement attentionnel où un mot est effectivement présent, mais dans un grand nombre d'essais, il n'est pas vu du tout. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, à l'AG3, ici, vous avez une distribution bimodale. Ce que ça signifie, c'est que le même stimulus exact est tantôt perçu, tantôt non perçu, de façon extrêmement catégorique, comme si vraiment le système basculait dans l'un de deux états possibles, hein. Tout ou rien, et c'est évidemment cette condition-là qu'on va du coup utiliser en imagerie. C'est peut-être le meilleur contrôle qu'on puisse imaginer, puisque cette fois-ci, le stimulus est absolument constant. Donc, Claire Sergent, dans sa thèse, est passée ensuite à l'imagerie, et je m'excuse, c'est une vieille diapositive, c'est marqué en présentation, ce travail a été publié dans Nature Neuroscience en 2005. Vous voyez qu'on a changé minimalement les conditions de présentation. On a essayé de se réduire à ce qu'on appelle un paradigme de clignement attentionnel minimal, c'est-à-dire qu'il y a juste T1 suivi d'un masque, T2 suivi de deux masques ici, Et pour aider un petit peu le sujet, on lui signalait le moment de la perception de T2, un petit peu comme dans l'expérience plus récente de Vuhlecken-Wischer, à l'aide de ces carrés ici blancs qui lui disent très précisément quand le mot peut être présenté. Mais évidemment, de temps en temps, il n'y avait pas de mot. Et donc, même tâche, identique, de la part des sujets. Alors, les résultats comportementaux, je passe très vite parce qu'ils ont répliqué essentiellement ce qu'on avait trouvé auparavant. Simplement pour que vous compreniez bien, donc à long délai ou à court délai, si le sujet ne fait pas la tâche sur T1, les stimuli sont visibles. Ça, c'est important à comprendre. Hein. Même s'il y a des masques ici qui suivent le mot, ce masquage est un masquage extrêmement léger. Il est là pour interrompre le traitement, pour le réduire à une dimension temporelle bien précise, mais il ne suffit pas à abolir la perception des chiffres. On n'est pas dans le domaine des délais de masquage très courts qui étaient utilisés auparavant pour la perception subliminale. Donc si le sujet ne fait pas la tâche sur T1, et il y avait des blocs, on lui disait « faites attention simplement au mot qui va survenir, ne faites pas attention à ce premier objet », eh bien dans ce cas-là, le sujet rapporte qu'il voit très bien la cible et le curseur est placé dans la position de visibilité, disons, élevée ou maximale. Vous voyez qu'il y a un tout petit peu de distraction à délai court, mais néanmoins, la plupart des essais sont classifiés comme vus. Dès que le sujet est engagé dans la tâche sur T1, y compris à long délai, mais surtout à court délai, évidemment, vous voyez apparaître donc ces réponses pas vues, ces réponses dans lesquelles le sujet utilise vraiment la position la plus extrême pour dire, il y avait, de mon point de vue, il n'y avait pas de mots dans cette série de stimuli. Alors, ça a permis évidemment de distinguer deux sortes d'essais, je reviendrai là-dessus après, mais d'un point de vue un peu catégoriel, comme ça, on peut dire, il y a les essais pas vus et les essais vus. Ensuite, évidemment, l'enregistrement des potentiels évoqués a permis de suivre le décours temporel de l'activité cérébrale au cours de cette présentation d'un stimulus T2. Et ce que vous allez voir maintenant, ce sont des soustractions. C'est-à-dire qu'on est intéressé par l'activité évoquée par un stimulus T2 lorsqu'il n'est pas vu et lorsqu'il est vu. Mais dans les deux cas, on veut soustraire l'activité évoquée par les masques et par le stimulus T1, par tout le contexte. Et donc, on soustrait les essais où T2 est absent. On a donc mot présent versus mot absent, quand il est pas vu et quand il est vu. Puis vous avez la soustraction des soustractions ici. Alors, j'espère que ce film va fonctionner. C'est donc la topographie des potentiels évoqués à la surface du scalp. De façon conventionnelle, l'avant de la tête est ici. Je vais essayer d'arrêter le film pour que vous puissiez voir. Voilà. L'avant de la tête est en haut, l'arrière de la tête est en bas, la gauche, la droite. Et ici, j'ai arrêté le film précisément au moment de ce qu'on appelle l'onde P1, qui est associé à un traitement dans les aires extrastriées du cortex visuel. On voit bien que ça vient de l'arrière de la tête, des régions occipitales ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence à ce moment entre les essais vus et les essais pas vus. Si on continue le film, on voit apparaître une onde qu'on appelle N1, qui a tendance à être latéralisée du côté gauche, hein, et jusqu'à pratiquement 200 millisecondes. Ici, j'ai arrêté le film un peu trop tard, mais vous avez sans doute vu qu'il n'y avait pratiquement pas de différence. D'ailleurs, c'est encore le cas ici, entre les stimuli vus et les stimuli pas vus. C'est extrêmement intéressant parce que quelques centaines de millisecondes plus tard, on va arrêter le sujet, on va lui demander de rapporter sa perception. Et dans les essais de gauche, il va dire « il n'y avait pas de mots, je n'ai pas vu de mots ». Et pourtant, il a cette activité extrêmement intense qui est sans doute associée au traitement dans les régions occipito-temporales ventrales et notamment l'orthographe de ce mot. C'est quelques dizaines de millisecondes plus tard que survient la divergence entre ces deux types d'essais, vous allez voir qu'elle prend une forme extrêmement rapide. Et faites bien attention. Vous voyez que très vite, il y a des ondes qui deviennent beaucoup plus intenses au niveau de la N2 ici, dans les essais où le sujet rapporte avoir vu le stimulus. Et puis on voit se dérouler donc des ondes qui continuent de prendre maintenant une forme beaucoup plus catégorique entre les essais vus et les essais pas vus. On voit ensuite un phénomène qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle l'onde N400. Vous voyez qu'elle a cette topographie caractéristique d'être négative au centre de la tête ici, et là, pour le coup, cette onde n'est pas du tout disparue dans les essais pas vus. Et je n'aurai pas le temps de vous présenter en détail d'autres travaux, notamment de Fogel et Luck, qui ont publié des études extrêmement intéressantes dans Nature en 1996 sur cette onde N400. Cette onde N400 peut être totalement préservée dans le clignement intentionnel, dans l'attentional blink. C'est une onde qui est associée au traitement sémantique, et donc ça signifie que même à 350 millisecondes, il continue d'y avoir un traitement prolongé de stimuli que le sujet rapporte ne pas avoir vu et qui, cette fois-ci, survient à un niveau sémantique de traitement de l'information. Néanmoins, à ce stade, la divergence entre les essais vus et pas vus est tout à fait claire et elle continue. Et vous voyez qu'on observe une onde P3A, qui est à l'avant de la tête ici, suivie d'une onde P3B, qui sont tout à fait caractéristiques de l'état vu. Il y a une petite P3B ici qui surgit dans les essais pas vus. Voilà. Alors, ce déroulement temporel de l'information, d'abord, si vous vous souvenez des cours précédents, correspond tout à fait, corrobore ce qu'on a pu voir dans d'autres situations de contraste conscient-non-conscient, c'est-à-dire une préservation des ondes précoces dans les essais non-conscients, une divergence tardive et un phénomène particulièrement divergent au niveau de l'onde P3. Il est corroboré également par toute une série de travaux, et notamment les travaux de Kranziok, qui ont montré également le même type de phénomène. Voici une représentation donc en résumé de ce qu'on a pu observer. P1, N1 strictement identique entre vu et pas vu, avec une origine au niveau des sources cérébrales telles qu'on peut l'inférer avec des logiciels de reconstruction de l'activité sur le cortex, donc au niveau des aires extrastriées, occipitales et ici occipito-temporales. Divergence soudaine vers 276, 300 et plus tard 400, 500 millisecondes, vous voyez, toute une série d'événements qui se mettent à diverger très rapidement et pratiquement tout ou rien entre l'état vu et l'état pas vu. Et alors, si on regarde les sources associées, vous voyez que le tout début correspond à l'entrée en activation des régions du cortex frontal inférieur gauche, ici. Bon, avec toujours ce grain de sel qui est que ce sont des localisations imprécises, rendues imprécises par la technique elle-même, qui est cette technique de potentiel évoqué. Et vous voyez que l'activation est à la fois dans le cortex temporal et dans le cortex frontal. Et ensuite, il y a vraiment une invasion des régions bilatérales du cortex frontal au niveau de la P3A et de la P3B, avec un retour également vers les régions postérieures. Et simplement ne pas oublier que pendant ce temps-là, le traitement non conscient, tardif, peut continuer avec cette onde N400. Alors pour mieux comprendre encore ce qui se passe, je vais vous montrer maintenant le film qu'avait pu réaliser Claire Sergent sur la base de la reconstruction de l'activité cérébrale donc sur la surface du cortex. Donc là, cette fois-ci, vous avez un hémisphère gauche, un hémisphère droit, une vue ventrale du cortex dans la condition pas vue, toujours en soustrayant les situations où le mot n'est pas présent, et dans la situation vue. Ah, excusez-moi, on va dérouler le film. Et vous allez voir qu'on voit extrêmement bien l'entrée en activité des régions occipitales du cortex. Voilà. Si j'arrête à 100 millisecondes ici, donc vous avez les bases cérébrales de l'onde P1, qui sont absolument indistinguables entre ces deux conditions. Vous avez une progression de l'activation dans les régions ventrales du cortex occipito-temporal. Bon, je pense qu'il y a une diffusion excessive de l'activation dans ce modèle de source, C'est typique des potentiels évoqués, mais l'activation réelle doit être probablement plus ventrale ici. Et puis, très vite, vous allez voir, donc, après cette progression au sein du lobe temporal, une divergence de l'activation. On commence à voir ici les prémices d'une activation du cortex frontal inférieur gauche qui devient tout à fait manifeste et avec une différence vraiment importante ici entre les deux conditions. Et si on continue le film, vous allez voir qu'on arrive à une activation très intense des régions donc frontales gauche, diffuses, avec amplification des régions du cortex temporal. Et ce qui n'empêche pas que le cortex temporal, notamment au moment du pic de cette onde N400, là, reste extrêmement actif dans la condition de non-conscience. Ce qui est intéressant, c'est que l'activation est confinée, en quelque sorte, aux régions temporales dans ce modèle des sources, alors qu'ici, elle existe également dans le lobe temporal, et donc il y a une N400 dans les deux cas. Mais vous voyez qu'il y a des régions supplémentaires du cortex frontal et du cortex pariétal qui ont été activés. Pardon, vous n'avez pas vu la fin du film, je suis allé trop vite, alors je remonte la totalité du film, donc on va revoir le début. Donc l'onde P1, l'onde N1, N170, et toujours pas de différence entre les deux conditions, et maintenant on va voir cette divergence donc importante, beaucoup plus d'activité notamment dans l'hémisphère gauche, ici, pour cette cible qui est un mot, une activation qui envahit les régions frontales gauche, qui reste beaucoup plus durable, qui est bilatérale dans les régions frontales inférieures, ici, et avec une réactivation des régions postérieures occipito-temporales. Et tous ces phénomènes tardifs n'existe que dans la condition consciente et corrobore tout à fait ce qu'on a pu voir avec le masquage dans les cours précédents. Donc, le modèle des sources nous permet d'avoir une idée du déroulement temporel dans certaines régions, toujours à prendre avec un petit peu de distance, hein, mais on voit, par exemple, que dans les régions temporales, si on prend une source ici, temporale moyenne, eh bien, il y a une activation initialement identique, jusque vers 200 millisecondes, et ensuite une divergence assez nette des essais vus par rapport aux essais pas vus, avec quand même des courbes qui ne sont pas parfaitement débruitées ici, mais néanmoins, vous voyez bien cette amplification de l'activité, et l'accès aux régions préfrontales, hein, frontale inférieure, frontale dorsolatérale, et même singulaire antérieure ici, qui lui est tout à fait tout ou rien, presque tout ou rien, il y a un petit peu d'activité ici dans la condition non consciente, mais il y a une divergence extrêmement forte. Alors, vous allez me dire, cette divergence entre essais vus et essais pas vus peut être due au fait que vous avez imposé arbitrairement une distinction entre des essais vus et des essais pas vus, alors qu'en réalité, la réponse du sujet est continue sur son curseur. Donc on a repris ici l'analyse, c'est la distribution de visibilité des sujets, et au lieu de diviser simplement au milieu pour distinguer des essais vus versus des essais pas vus, on a distingué deux catégories au sein de chacune de ces catégories initiales. Donc il y a les essais pas vus du tout, les essais avec visibilité partielle, les essais vus mais avec visibilité basse, et vus avec visibilité élevée. Cette analyse permet de voir qu'en réalité, il y a réellement une distinction catégorique qui se produit dans le cerveau du sujet. D'abord, les ondes initiales, bon, évidemment, en subdivisant en catégories, on a augmenté un petit peu le bruit dans les données, mais vous voyez bien que, par exemple, l'onde N1, ici, est extrêmement stable, strictement consciente, indépendante de ce que rapporte le sujet. Par contre, avec un niveau de la N2, on a une distinction beaucoup plus continue. Ce phénomène a l'air de refléter assez finement la visibilité du sujet, mais de façon continue ici. Et dès les ondes suivantes, vous voyez ici, au niveau de 300 millisecondes, 436 millisecondes, vous avez des distinctions qui sont absolument catégoriques, presque exactement catégoriques. C'est-à-dire que les deux états vus se distinguent très nettement des deux états pas vus. Donc il faut essayer d'imaginer, quand on parle d'un phénomène tout ou rien, je pense qu'il faut relativiser ce terme tout ou rien, qui est juste de façon globale, mais il faut tenir compte du fait que nous avons affaire ici à un système physique qui met un certain temps pour diverger entre ces états hauts et ces états bas, ces états vus et ces états pas vus. La période entre 200 et 300 millisecondes a l'air de correspondre à une période de transition dans laquelle ce système physique diverge. Et ensuite, évidemment, on voit ce phénomène tout ou rien. Alors, les causes du clignement intentionnel. Je vous ai dit, cette perte de visibilité ne survient que si le sujet est engagé dans la tâche sur T1. Donc il faut qu'il soit absorbé par une première tâche pour que la visibilité diminue sur la deuxième. Alors on peut aller voir également avec les potentiels évoqués qu'est-ce que ça change d'engager le sujet dans la tâche sur T1. Donc ici ce que vous voyez, c'est par rapport à l'apparition de la cible T1, le déroulement des potentiels évoqués dans la différence entre faire la tâche sur T1 ou ne pas la faire. Oui. Alors, le stimulus est identique, mais le sujet, suivant les instructions, doit faire ou ne pas faire la tâche sur T1. Vous voyez que les ondes précoces changent peu, elles peuvent être éventuellement un petit peu amplifiées, mais c'est surtout à partir de la N2 vers 230 ici millisecondes, puis P3A, P3B, qu'on voit des différences majeures. Autrement dit, les mêmes ondes qui montraient une différence sur T2 entre vue et pas vue sont celles qui montrent une différence lorsqu'on s'engage ou qu'on ne s'engage pas dans une tâche sur T1. On peut mettre les deux en rapport. Vous voyez, donc ici, vous avez le début de T1. On ne choisit que les essais critiques où il y a ce délai de 250 millisecondes, environ 280 millisecondes ici entre T1 et T2. Et on met en rapport le fait de s'engager dans la tâche sur T1 et ce qu'on observe dans les essais vus et dans les essais pas vus dans la tâche sur T2. Vous voyez, les différences se ressemblent énormément. C'est la même séquence d'activité qui se déclenche pour exécuter une tâche sur T1 et pour prendre conscience de la cible sur T2. Alors du coup, on peut regarder où se produit la collision entre les deux tâches. Et on voit qu'au moment où va se produire cette divergence critique vers 200-300 millisecondes entre les essais vus et pas vus sur T2, eh bien c'est le moment où le sujet est engagé globalement avec cette onde P3B, élicité par le stimulus T1. Oui. Donc, on dirait qu'il y a une collision entre le fait d'être engagé de façon durable dans une tâche sur T1 qui produit cette onde P3B, qui est associée à une activation distribuée qui implique le cortex frontal, et la possibilité ou non de prendre conscience d'un stimulus T2. Voilà. Il y a une sorte de phénomène d'exclusion. Alors, on a pu le voir de façon un petit peu plus directe ici en revenant aux essais individuels. Et c'est le dernier graphe que je vous montrerai de cette expérience. Ici, on voit donc 1000 essais individuels qui ont été triés par le score de visibilité rapporté par le sujet. Bon, notre distinction entre vu et pas vu, ici, un petit peu arbitraire, est au milieu. Mais les essais ont été triés individuellement. Et les couleurs, cette fois-ci, représentent le voltage. Vous voyez, rouge, ça signifie des voltages positifs. Ici, vous êtes sur des électrodes centrales. Et vous voyez donc l'onde P300. Et vous voyez très, très bien qu'il y a une première onde P300 qui est évoquée par la cible T1. Et si le sujet rapporte voir les stimuli, eh bien, vous avez une deuxième onde P300. Et deux phénomènes, ou bien un seul, pratiquement, avec un petit peu de bruit, ou peut-être une petite P300 dans certains essais. Sur une autre électrode, on voit bien ici l'onde N2. Et alors, on voit que cette onde N2 progresse de façon plus continue et qu'elle survient précisément dans la fin de l'onde P3B évoquée par le premier stimulus. Et la dernière analyse un peu intéressante qu'on peut faire, c'est de montrer que, en fait, dès le traitement de T1, il y a déjà une différence qui va prédire si le sujet voit ou ne voit pas les stimuli. Vous voyez ? Si vous regardez attentivement ici, on a l'impression que dans les essais pas vus, la P300 se concentre plutôt sur la partie tardive de cette fenêtre temporelle, alors qu'ici, elle est nettement plus concentrée sur la partie précoce. Alors, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais il semble qu'il y ait une concentration différente de la difficulté de traitement de T1 et que ce soit précisément dans les essais vus que cette concentration se produit maximalement au début de la fenêtre. Et on a pu montrer avec Claire Sergent qu'il y avait effectivement une interaction significative entre la partie précoce et la partie tardive de cette fenêtre temporelle, cette fois-ci sur T1, et la création d'une invisibilité sur T2. Alors, je m'excuse si c'est un petit peu difficile à comprendre, mais en réalité, concrètement, c'est très simple. Il y a des fluctuations dans la capacité de traiter la première cible vite ou lentement, avec efficacité ou moins d'efficacité. Ce sont des fluctuations normales dans le traitement de T1, qui se reflètent par exemple dans le fait que le temps de réaction à une cible est éminemment variable. Sa distribution peut aller mettons 400 à 700 millisecondes. Il peut y avoir une variance de l'ordre de plusieurs centaines de millisecondes. Eh bien, cette variance dans le traitement de T1 cause en partie le clignement attentionnel sur T2, dans la mesure où si on est occupé plus longtemps par la tâche sur T1, eh bien, on a plus de chances de ne pas pouvoir percevoir la cible sur T2. Il y a vraiment des phénomènes qui s'excluent l'un l'autre. Alors, on va voir plus tard qu'on peut le montrer très directement par des expériences de psychologie cognitive. Mais je vais y revenir dans un instant. Je voudrais simplement consolider ce que je vous ai présenté sur la base des potentiels évoqués par d'autres expériences qui, elles, ont utilisé des techniques spatialement plus précises. Et la première d'entre elles, c'est une expérience d'IRM fonctionnelle de Marois et collaborateurs dans Neuron en 2004 qui ont montré que, effectivement, il y avait des réseaux pariétofrontaux à l'origine de cette différence entre percevoir ou ne pas percevoir devant le clignement attentionnel. Ils ont utilisé l'IRM fonctionnel et donc ils sont retombés sur un contraste qui est tout à fait classique pour les études de perception en IRM, qui est le contraste entre visage et maison, vous voyez, visage et lieu plutôt. Visage et lieu activent des régions très différentes du cortex visuel, occipito-temporal, avec une région des visages qui est dans la partie plus latérale du cortex fusiforme et une autre région para-hippocampique qui s'intéresse au lieu. Donc ils ont placé un visage comme cible T1, le sujet doit dire lequel de trois visages possibles est présenté, et un lieu comme cible T2, avec pour tâche de dire si c'est un lieu extérieur ou intérieur. Mais c'est toujours la situation de clignement attentionnel avec des masques qui viennent rendre difficile cette tâche. Eh bien, avec cette situation-là, ils ont mesuré donc l'activation dans la région para-hippocampique qui répond au lieu, qui répond donc à la cible T2, et ils ont pu montrer que dans cette région, il y avait un phénomène d'amplification, mais pas encore tout ou rien, qui ressemble à ce qu'on voit nous dans les régions temporales pour notre mot. Et vous voyez le phénomène ici, c'est dans les essais où le sujet rate, donc ce sont les misses ici, et dans le sujet est soumis au clignement attentionnel, vous voyez que la réponse en IRM monte et redescend. Elle ne monte pas tout à fait aussi haut que lorsque le sujet réussit la tâche et arrive à voir et à répondre correctement sur la cible T2, ici le lieu qui lui est présenté. Et néanmoins, les deux essais qui soient hits ou misses, donc vu, enfin, tâche réussie ou tâche manquée sur T2, les deux sont plus élevés que la situation de contrôle où il n'y a pas de cible T2 qui est présentée, donc T2 absent. Donc si on fait exactement mentalement le même genre de soustraction que je vous ai présenté avant, on voit qu'il y a effectivement une activité non consciente, en tout cas non associée à la détection de la cible dans le clignement attentionnel, c'est la différence entre la courbe rouge et la courbe bleue, mais il y a une différence amplifiée lorsque le sujet est capable de rapporter le stimulus. Donc toujours la même idée, dans les régions spécialisées, dans les processeurs spécialisés, il y a amplification du traitement de l'information. Maintenant, d'autres régions, dans le cortex frontal latéral, dans le cortex singulaire antérieur, elles montrent, d'après Marois, une différence tout ou rien. C'est-à-dire que cette fois-ci, dans ces régions, il n'y a plus de différence entre courbe bleue et courbe rouge. C'est-à-dire que lorsque le sujet ne parvient pas à extraire la cible T2, il n'y a plus aucun effet de cette cible T2, il n'y a plus de différence entre cible présente ou cible absente. Par contre, lorsque le sujet parvient à détecter la cible T2, c'est la courbe verte, vous avez une activation beaucoup plus ample et qui dure jusqu'à la fin de l'essai. Cette expérience est pleine d'astuces expérimentales qui permettent d'amplifier, parce qu'évidemment ces événements sont extrêmement courts et c'est difficile de les voir en IRM fonctionnel, mais en particulier ici il y a de longs délais et la réponse du sujet survient après un long délai à la fin de l'essai, ce qui permet d'avoir cette amplification, je pense, de l'activation et qui permet de la rendre détectable en IRM fonctionnel. Donc des régions du cortex frontal s'attachent à T2 uniquement lorsque T2 n'est pas soumis au clignement attentionnel. Le réseau est extrêmement proche donc, de celui qu'on peut voir avec nos potentiels évoqués. Troisième expérience, une expérience qui cette fois-ci combine les deux résolutions, à la fois spatiale et temporelle, avec la magnétoencéphalographie, et qui présente aussi l'intérêt d'analyser la synchronisation des régions cérébrales au cours de ce phénomène de clignement attentionnel. C'est une expérience de Gross et collaborateurs avec Kim Shapiro, dans lesquels il commence par montrer qu'au cours de ces tâches de clignement attentionnel, il y a, lorsque T2 est présenté, par rapport aux essais où T2 est absent, il y a une amplification des ondes dans la bande bêta. Et ici, en fréquence, vous avez juste en dessous de 20 Hz une amplification de la puissance induite par les stimuli. Donc, premier phénomène intéressant, c'est dans cette bande de fréquence assez lente, en dessous de la bande gamma, je vous en avais parlé dans le cas des enregistrements intracrâniens, que se produisent des phénomènes d'amplification et de synchronisation. Ici, en rouge, vous avez l'origine, les régions qui semblent être à la source de cet effet de puissance dans la bande bêta, et le graphe qui est en dessous vous montre un index de synchronisation qui montre que la plupart de ces régions ont tendance à se synchroniser entre elles de façon transiente dans cette bande de fréquence aux alentours de 20 Hz. Elles communiquent entre elles de façon temporaire dans cette bande de fréquence. Et on voit bien ici cette augmentation des corrélations dans la bande bêta, de synchronie de phase pardon, dans la bande bêta. Eh bien, ensuite, Gross et collaborateurs montrent que ce phénomène indexe très directement le phénomène de clignement attentionnel. Je vais vous expliquer ça. D'abord, s'il n'y a pas de cible du tout, vous voyez qu'au cours du temps, l'index de synchronisation reste dans une zone moyenne, c'est la courbe verte ici, entre cette zone qui est délimitée par les pointillés. Maintenant, s'il y a juste la cible T1, vous avez une augmentation temporaire de la synchronie, et ensuite elle revient à la ligne de base. Donc ça, c'est le traitement de T1. Vous voyez que c'est le temps par rapport à la présentation de T1 ici. Donc vers 260 millisecondes, c'est une fenêtre approximative, puisqu'il faut, pour calculer cette mesure intégrée sur une fenêtre importante, mais approximativement vers 260 millisecondes, vous avez cette apparition d'un réseau synchrone dans la bande bêta, puis retour à la baseline. Si maintenant il y a une cible T2 et qu'elle est vue, c'est la courbe en noir. Et vous voyez que cette fois-ci, vous voyez deux phases de synchronisation dans la bande bêta au lieu d'une. Donc il y a vraiment deux étapes de traitement qui sont indexées, et successivement, le réseau va se synchroniser dans deux états différents. C'est très intéressant de voir qu'il a besoin apparemment de se désynchroniser significativement dans la phase intermédiaire. Quelque chose qui avait été rapporté dès le départ par Francisco Varela dans ses travaux. Il semble que les périodes de synchronisation doivent être séparées par des périodes de désynchronisation active, qui sont des états très intéressants. Et vous voyez enfin que si T2 n'est pas vu, eh bien, essentiellement, vous avez le premier pic et beaucoup moins le deuxième et beaucoup moins ce phénomène de désynchronisation ici. C'est peut-être pas aussi tout ou rien que nous aurions été amenés à le penser sur la base de nos résultats, mais il y a clairement une réduction importante de ce phénomène de synchronisation lors des essais où T2 n'est pas rapporté convenablement par les sujets. Donc, on retrouve dans ces expériences de clignement attentionnel ce que j'avais appelé les signatures de l'accès à la conscience dans les expériences sur le masquage, avec changement de la synchronisation à longue distance, changement de l'activation dans les régions pariétofrontales et amplification partielle des processeurs pertinents pour le contenu qui est accédé par les sujets. Alors, je me souviens que la semaine dernière, l'un d'entre vous m'avait posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si le stimulus 2 est suffisamment visible, il n'est pas masqué, par exemple? Est-ce qu'à ce moment-là, on va encore ne pas le voir du tout, ou bien est-ce qu'au contraire, on va simplement être capable de le voir après un certain délai? Eh bien, c'est exactement ce qui semble se produire dans la situation qu'on appelle la période psychologique réfractaire. Dans la période psychologique réfractaire, on présente également deux stimuli. Mais la différence avec le clignement attentionnel, c'est que typiquement, ces stimuli ne sont pas masqués. La situation n'est pas difficile sur le plan perceptif. Vous êtes tout à fait capable de percevoir un stimulus 1 et un stimulus 2. Néanmoins, on peut montrer que le traitement du stimulus 2 est considérablement affecté par la présence du stimulus 1. Et en fait, il y a un ralentissement très important du traitement du stimulus 2. C'est ça qui a été appelé, c'est une terminologie un petit peu ancienne, période psychologique réfractaire. C'est-à-dire qu'il y a, une sorte de phénomène réfractaire lié au fait que quand on est engagé dans une tâche sur T1, une deuxième tâche doit être différée. Alors pour vous expliquer un petit peu ce phénomène, je reviens en arrière dans les diapos ici. Voilà, imaginez, ce sont des données réelles de Mariano Sigman, la tâche T1 demande de traiter un son, la tâche T2 de traiter une cible visuelle. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait obtenir ce phénomène de façon cross-modale. Le stimulus 1 engage la tâche 1 et demande une réponse immédiate 1. Le stimulus 2 engage la tâche 2 et demande une réponse également la plus rapide possible 2. Vous voyez que si l'intervalle entre les stimuli est de l'ordre de 1000 millisecondes ici, qui est très long, le sujet fait la première réponse, le stimulus 2 survient après sa première réponse et il répond au stimulus 2. Plus on va accélérer le délai, si on accélère le délai entre T1 et T2, donc on arrive ici à peu près à 600 millisecondes, vous voyez que T2 est présenté maintenant juste avant que le sujet ait répondu sur T1, mais les temps de réaction continuent d'être extrêmement rapides. Donc les temps de réaction 2 ici s'accélèrent exactement en parallèle avec le moment de présentation du stimulus correspondant. Par contre, si on continue de raccourcir le délai entre les deux présentations, vous voyez que cette fois-ci, le temps de réponse du sujet devient constant ici. Il n'est plus déterminé par le moment de présentation de T2. Il se rallonge considérablement par rapport au moment de présentation de T2. Il devient déterminé, excusez-moi pour les diapositives, il devient déterminé par le moment où le sujet a fini de répondre à T1. Vous voyez, et c'est cette différence-là qui devient constante. Autrement dit, le sujet finit sa tâche sur T1 et commence à répondre ensuite à T2. Mais il n'y a pas de clignement attentionnel dans la mesure où l'information sur la cible T2 est suffisamment perceptible pour que le sujet puisse, en quelque sorte, la stocker de façon temporaire et la retrouver après avoir terminé la tâche sur T1. Alors, beaucoup de chercheurs ont étudié ce phénomène, et notamment Al Pachler, aux États-Unis, qui a montré qu'en réalité, on avait tort de penser que la période réfractaire était complète. Ce n'est pas la totalité de la tâche 2 qui est ralentie dans la tête du sujet. C'est exclusivement ce qu'on peut appeler une étape centrale, un goulot d'étranglement central, qui concerne le moment où le sujet prend la décision. Quel type de réponse dois-je faire en réponse à ce type de stimulus ? Les étapes qui précèdent cette étape de sélection de la réponse et les étapes qui suivent cette étape de sélection de la réponse peuvent s'exécuter sans goulot d'étranglement et on peut montrer qu'elles s'exécutent en parallèle. Et par exemple, dans la diapositive que vous avez actuellement sous les yeux, vous voyez cette différence entre les deux courbes ici. Elle correspond à une variable qui affecte le temps de réponse 2, qui était en l'occurrence une variable perceptive, la notation qui était utilisée pour représenter un chiffre, chiffre arabe ou mot. C'est plus long de lire un mot que de lire un chiffre arabe, et donc la courbe en pointillé correspond à la lecture du mot. Donc la tâche 2 était ralentie par ce facteur-là, mais, très intéressant, ce ralentissement disparaît dans les délais les plus courts. Pourquoi est-ce qu'il disparaît ? Parce que l'analyse du stimulus, est-ce que c'est un mot, est-ce que c'est un chiffre, quel mot, cette analyse-là se produit en parallèle avec la tâche numéro 1. Et donc ce délai ici disparaît parce qu'il est absorbé en quelque sorte par le moment où le sujet est engagé dans la tâche 1. Pendant que le sujet fait la tâche 1, son cerveau est aussi en train de calculer la perception de la tâche numéro 2. Mais l'étape centrale, elle, est complètement ralentie. Alors il y a énormément de données qui valident cette interprétation et qui suggère que c'est une partie seulement, mais une partie évidemment cruciale de la tâche qui est ralentie dans la période psychologique réfractaire. Par ailleurs, d'autres données suggèrent qu'il y a vraiment un lien extrêmement étroit entre ces deux phénomènes que sont le clignement attentionnel d'une part et la période psychologique réfractaire d'autre part. Et on peut passer de façon très fine de l'une à l'autre. Je vais vous montrer juste deux données qui vont dans ce sens. La première, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque on prend un paradigme de clignement attentionnel, mais on demande au sujet de répondre immédiatement à la première cible, comme dans le paradigme de période psychologique réfractaire. Et pour bien comprendre les différences, dans les deux cas, vous avez des stimuli qui s'échelonnent dans le temps, mais une des différences majeures, c'est que dans la tâche de clignement attentionnel, vous n'avez pas de temps de réaction, vous attendez la fin de l'essai et le sujet rapporte quelle lettre il a vue. Donc vous n'avez pas accès au temps qu'il a mis pour traiter l'information. Dans la période psychologique réfractaire, typiquement, vous demandez au sujet de répondre immédiatement à chacune des cibles, en cliquant sur des boutons, et donc vous avez le temps de réaction. Si vous importez cette propriété-là dans la tâche de clignement attentionnel, vous obtenez ce qu'a fait Pierre Jolicoeur, c'est-à-dire demander au sujet de répondre immédiatement à T1, obtenir un temps de réaction, et ensuite regarder si le sujet est capable de percevoir et de rapporter T2, quelle était la lettre qui était présentée comme T2. Alors, vous retrouvez ici donc la mesure de performance sur le stimulus T2, qui peut être très élevé à délai long et qui s'écroule au délai court. Donc ça, c'est le clignement attentionnel. Donc on voit que faire la tâche immédiatement au sujet ne change rien, toujours un clignement attentionnel. Mais c'est beaucoup mieux que ça, puisque les différentes courbes ici correspondent à la vitesse avec laquelle le sujet a réalisé la première tâche. C'est la même première tâche, mais d'un essai à l'autre, il y a des fluctuations dans la vitesse de réponse. Et ici, elles ont été divisées en 4 quartiles, vous voyez. Le quartile le plus rapide, aux alentours de 400 millisecondes, puis un petit peu plus lent, 487, 557 et 674 de médiane des temps de réponse dans ces différents quartiles. Et vous voyez que ça a un effet majeur sur le clignement attentionnel. Ça module le clignement attentionnel. Plus vous mettez de temps à répondre à la tâche 1, simplement par hasard, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a ces fluctuations dans le temps de réaction, peut-être parce que l'accumulation d'évidence est une marche aléatoire qui varie dans sa durée. Et bien, vous voyez que plus vous êtes long à répondre à T1, plus le clignement attentionnel est prononcé dans sa profondeur et dans sa durée en particulier. La durée du clignement attentionnel est directement reliée à la durée d'engagement dans la tâche sur T1. Donc les deux phénomènes sont étroitement reliés de ce point de vue-là. Deuxième manière dont les phénomènes sont reliés, vous pouvez obtenir dans la même tâche les deux phénomènes. Et ça, c'est un travail assez joli qui a été réalisé par Wang et publié en 2002. La situation, et c'est assez malin, consiste à réduire le paradigme à quelque chose de minimal. Imaginez toujours la même situation, vous avez des lettres, deux lettres possibles parmi des chiffres. Vous demandez tout simplement au sujet de répondre le plus vite possible à la deuxième présentation. Donc la deuxième lettre. Et par exemple, la réponse peut être si la deuxième lettre est un X, cliquez à droite. Si la deuxième lettre est un Y, cliquez à gauche. Mais le fait de demander au sujet de répondre à la deuxième lettre l'oblige évidemment à prêter attention à la première et à savoir qu'il y a eu une première. Mais sans qu'il y ait de mesure réelle de ce qui se passe pendant le traitement de la première, mais il faut bien que le sujet se soit engagé dans l'accès à cette information. Alors, dans ces conditions, Wang montre qu'on reproduit les deux phénomènes. Si les conditions sont correctes, on observe d'abord que les performances, donc ici c'est le taux de bonne réponse, pardon, c'est le taux d'erreur dans la situation, dans la réponse à cette deuxième lettre, vous voyez que le taux d'erreur où le sujet ne parvient pas à détecter correctement la deuxième lettre varie en fonction de la position, et donc on retrouve la courbe du blink, ici, c'est la courbe en miroir, puisque ce sont les erreurs qui sont indiquées et non pas les taux de réussite. Mais vous reconnaissez ici la courbe du clignement attentionnel. Le sujet ne parvient pas à faire correctement cette deuxième tâche et il fait jusqu'à 30% d'erreurs pour des délais assez courts entre les deux cibles. Mais par ailleurs, quand il y parvient, voilà son temps de réaction. Donc c'est l'autre moitié des essais, les 70% qui sont corrects ici. Le temps de réaction du sujet, à ce moment-là, devient considérablement ralenti et se ralentit exactement suivant le phénomène de période psychologique réfractaire. Donc vous avez, suivant les essais, de façon qui n'est pas encore parfaitement comprise, deux possibilités, soit perte complète de l'information et vous avez le clignement attentionnel, soit préservation de l'information dans ce qui doit être une sorte de buffer qui permet de la récupérer après avoir traité T1, et à ce moment-là, vous avez simplement un délai dans le temps de réaction. Alors, juste pour résumer toutes ces observations, on dispose d'une revue intéressante de Marois et Ivanov en 2005 qui montre que dans toute une série d'expériences d'IRM fonctionnelles qui ont porté soit donc sur ce phénomène de période psychologique réfractaire qui est en rouge, soit de tâches de mémoire de travail visuelle dont je n'ai pas parlé, soit de clignement attentionnel qui est en jaune, eh bien on retrouve un réseau pariétofrontal qui se ressemble énormément à travers ces différentes situations. Autrement dit, il y a bien quelque chose de partagé dans toutes ces tâches de limitation centrale. Ce qui a l'air d'être l'étape limitante, c'est l'accès à un réseau bilatéral distribué impliquant très largement le cortex préfrontal. Et comme je l'ai dit, seule l'étape de décision centrale est limitante. Alors, je n'aurai pas le temps de vous parler des travaux qui ont été menés par Mariano Sigman au laboratoire, mais pour ceux d'entre vous que ça intéresse, vous pouvez aller voir. Les travaux de Mariano Sigman montrent effectivement qu'on peut prouver que ce réseau pariétofrontal est différé dans le temps lorsqu'il y a le phénomène de période psychologique réfractaire. On pense souvent que l'IRM fonctionnel n'a pas la précision suffisante pour mesurer les informations dans le temps. Eh bien, Mariano Sigman a trouvé une astuce pour prouver qu'en fait, on pouvait mesurer des délais d'activation de l'ordre de quelques centaines de millisecondes en IRM fonctionnel. Donc l'IRM fonctionnel n'est pas dépourvu d'informations temporelles. Et lorsqu'on fait cette mesure dans la période psychologique réfractaire, on peut montrer qu'effectivement, ce réseau pariétofrontal montre le délai qui est prédit, et un travail similaire de Dux et Marois montre effectivement qu'il y a un délai qui se produit lors de la période psychologique réfractaire précisément dans ce réseau, alors que d'autres régions cérébrales ne sont pas différées. Vous voyez, ça c'est très important à comprendre. Ce n'est pas l'ensemble du cerveau qui peut faire une seule chose à la fois. Bien entendu, toutes les aires perceptives et les aires motrices également sont capables de réaliser des opérations en parallèle. Une très large part du traitement visuel de l'information se produit en parallèle à travers l'ensemble de la scène. Et de la même manière, le traitement auditif se produit en parallèle du traitement visuel. Et tout ça, on peut le voir dans ces expériences. Deux cibles simultanées, à ce niveau perceptif, sont traitées en parallèle. Il n'y a pas de limite centrale. Il n'y a pas de limite, je veux dire, dans cette dans ce traitement perceptif périphérique. La limite est centrale. La limite se situe au moment où une information est sélectionnée et une décision doit être prise concernant cette information. Voilà. Alors, je voulais conclure en soulignant que ce réseau pariétofrontal semble être engagé dans toute une série de situations, évidemment. Et il faut s'attendre, si on a affaire à un système de diffusion générale de l'information, à ce que ce système soit utilisé dans une série de tâches extrêmement différentes, mais qui toutes sollicitent une sorte d'effort mental pour extraire l'information et l'associer à des réponses possibles. Alors, dans un travail déjà ancien avec Jean-Pierre Changeux, nous avions simulé une partie de ce concept de réseau global neuronal, d'espace de travail neuronal global, et nous avions montré qu'il pouvait jouer un rôle particulièrement important dans les tâches non routinières. C'est facile à comprendre parce qu'évidemment, toutes les situations qui sont routinisées peuvent faire appel à des chaînes de traitement spécialisées, perceptives, motrices, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un système d'aiguillage central. En quelque sorte, l'information s'aiguille d'elle-même. Et nous étions amenés donc dans ce modèle à postuler que c'est uniquement lorsqu'il s'agit de créer un appariement entre des stimuli et des réponses non routiniers, nouveaux, qui va à l'encontre de ce qui a été appris auparavant, qu'il va y avoir engagement de l'espace de travail global. Et ces simulations le montraient assez bien ici. Donc, on engageait un réseau de neurones dans une tâche routinière, numéro 1, une tâche routinière, numéro 2. Vous voyez qu'il n'y a pas, à ce moment-là, de décharge forte des unités de l'espace de travail dans le réseau. Ces unités entraient en activité spécifiquement lorsqu'on introduisait une troisième tâche qui allait à l'encontre des précédentes, qui demandait donc, chez un sujet humain, un effort particulier pour aller à l'encontre de la situation routinière. Et là, on voyait une étape de recherche caractérisée par une activité très intense de ces unités de l'espace de travail, mais fluctuante d'un essai à l'autre, correspond à la recherche d'une solution pour la tâche, puis stabilisation d'un état qui permet de réaliser la tâche de façon correcte. Et ensuite, vous voyez donc l'exécution avec effort de la tâche qui s'accompagne d'activités très intenses de ces unités de l'espace de travail. Et enfin, progressivement, la routinisation elle-même de cette tâche nouvelle qui est transférée dans les processeurs modulaires, qui fait qu'il n'est plus nécessaire d'avoir une activation permanente de l'espace de travail. Et donc, il va y avoir un transfert possible et l'utilisation de l'espace de travail pour des tâches nouvelles. Mais avec cette caractéristique particulière que dès que le réseau fait une erreur, à ce moment-là, il y a réactivation de cet espace de travail global. Et donc, après une erreur, on observe une réactivation de ces unités. Eh bien, tous ces phénomènes peuvent être utilisés simplement pour introduire ce qui a été observé dans la littérature, c'est-à-dire que le réseau pariétaux, frontaux, singulaires que je vous ai décrit a tendance à être mobilisé dès que la situation n'est plus routinière, avec une correspondance assez bonne entre ces trois types de situations. D'abord, lorsque le sujet est dans une phase de recherche active d'une solution à une tâche par rapport à une situation de routine, eh bien, on voit très nettement ce réseau émerger. C'était le cas, par exemple, dans le travail de Claire Landman au laboratoire, qui avait utilisé une sorte de tâche de mastermind et qui avait montré que la durée d'activation de ce réseau est exactement prédite par la durée de résolution du problème. Dès que le sujet a résolu le problème qu'il cherche à résoudre, eh bien, l'activation va s'écrouler soudainement. Et donc, le moment où cette activation s'écroule indexe très finement le moment où le sujet passe dans une situation de routine et a fini de résoudre son problème mental. Deuxième situation, cette correspondance entre routine, des moments où la tâche n'est pas entraînée et des moments où la tâche est entraînée et devient routinière, donc la situation de routinisation, eh bien, là encore, on pourrait citer de très nombreux travaux qui montrent que les activations de ce réseau pariéto-fronto-singulaire diminuent et disparaissent complètement au cours de la routinisation. J'ai choisi ici ce travail de Dux et collaborateurs qui montre qu'effectivement, dans une situation de double tâche, il y a réduction de l'activation, pas disparition totale. Il y a toujours ce phénomène de période psychologique réfractaire. Il ne disparaît pas complètement, mais lorsqu'il diminue, l'activité correspondante diminue, notamment dans cette région ici du cortex frontal inférieur gauche. Et puis, troisième contraste pertinent, les situations où le sujet font des erreurs, qui a été étudiée dans un certain nombre d'articles d'IRM fonctionnel, également de potentiel évoqué. Là encore, je vous renvoie vers une revue de Klein et collaborateurs dans Neuroimage en 2007. Toute une série d'études de contraste donc, entre essais avec erreur ou essais corrects, ou d'essais avec conflit et sans conflit, montre que la reprise de contrôle qui suit une erreur ou qui suit un essai avec un conflit cognitif s'accompagne d'une entrée en activité du cortex singulaire antérieur et des régions préfrontales bilatérales. Donc, il y a une convergence assez forte entre toutes ces situations. Évidemment, toutes ces situations font appel à ce qu'on appelle l'attention exécutive, et donc il n'est pas toujours facile de dire on a isolé une étape d'accès conscient à l'information par opposition à l'utilisation de cette information dans une tâche cognitive ultérieure. Et c'est une distinction qui n'est peut-être même pas totalement pertinente, puisqu'on accède à l'information parce que cette information va être utile pour la suite de la tâche cognitive. Néanmoins, dans le cours de la semaine prochaine, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vous montrerai qu'il est possible de trouver des situations où on peut montrer que le cortex frontal joue un rôle pertinent, même dans la phase d'accès elle-même à l'information sensorielle. Donc, ce n'est pas juste l'utilisation de l'information, c'est la prise de conscience elle-même de l'information, même visuelle, qui est dépendante, en partie en tout cas, de l'accès à ces régions du cortex préfrontal. Donc, pour aujourd'hui, je crois que je m'arrête là, en vous laissant avec l'idée qu'il y a dans notre cerveau, évidemment, un parallélisme massif, c'est ça qui caractérise la compétence extraordinaire du cerveau, mais aussi, à une étape centrale, une limitation extrême, une limitation qui est bien plus importante que la sérialité qu'on peut observer dans les ordinateurs, par exemple, d'aujourd'hui, parce que cette sérialité dans le cerveau humain, vous l'avez vu, est à l'échelle de la centaine de millisecondes. C'est-à-dire qu'une opération qui nous mobilise consciemment nous ralentit de plusieurs centaines de millisecondes pour d'autres tâches. Et on ne peut pas exécuter simultanément plusieurs de ces tâches dites centrales. Donc c'est une limitation extrêmement importante et je pense que je vais repousser ça au cours de l'année prochaine, mais nous verrons également que cette limitation est vraiment une limite de conscience. C'est-à-dire que non seulement vous êtes ralenti pour la performance de tâches doubles, mais votre conscience même qu'il y a une deuxième tâche à exécuter et que cette deuxième tâche est en attente, qu'il y a un stimulus qui est en train d'attendre, eh bien, cette conscience même est abolie. Vous n'avez pas conscience, lorsque vous êtes concentré sur une première tâche, que la deuxième est en train d'être mise en attente. Il y a donc vraiment là un système qui, de mon point de vue en tout cas, joue un rôle tout à fait central dans ce qu'on appelle la prise de conscience ou l'accès à la conscience. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.